Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Brive en très très bonne compagnie avec trois merveilleux invités que je vais vous présenter. À mes côtés, il y a Oswald Levat qui voit le jour à Garoua au Cameroun en 1976, outre 16. Oui, je suis belge. C'est une foire internationale, mondiale. Outre Sciences Po Paris, elle fait des études de journalisme qu'elle pratique avant de se tourner vers la photographie avec notamment le livre Congo couleur nuit et des documentaires dont Le Calumet de l'espoir. Son premier roman, Les Aquatiques aux éditions des Escales, se déroule à Zambouena, un pays africain fictif qui nous amène à la rencontre d'une femme qui s'est tissée dans les rangs importants de la société malgré ses blessures d'enfance. Or, son meilleur ami va payer le prix fort de sa vie intime, une histoire qui va la libérer, qui va la questionner justement sur comment se libérer des chaînes sociales et psychologiques. À mes côtés également, Louis-Philippe d'Alembert, qui est né à Port-au-Prince en Haïti en 1962. Au siècle dernier, voilà, comme nous tous. Il a une formation littéraire et journalistique qui le pousse à pratiquer ce métier dans ce pays avant de s'envoler pour la France afin de réaliser un doctorat à la Sorbonne. Grand voyageur, il enseigne dans plusieurs universités américaines et européennes. Poète, essayiste et nouvelliste, il publie son premier roman, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, ainsi que des livres comme Noire blessure, Avant que les ombres s'effacent, Mur méditerranée ou Milwaukee Blues chez Sabine Vespizer, qui revisite les meurtres de George Floyd et Emmett Till à travers une galerie de personnages qui ont connu son héros et qui l'ont aimé ou pas. Et enfin, à mes côtés, Papindai, qui naît en 1965 à Antony, en banlieue parisienne. Après l'école normale sup de lettres, il décroche une agrégation d'histoire. Il effectue sa thèse aux États-Unis et se spécialise dans l'histoire nord-américaine et la sociologie des populations noires en France. Engagé, il rejoint le Conseil représentatif des associations noires de France. Professeur à Sciences Po, il devient directeur du Palais de la Porte Dorée, qui abrite notamment le musée d'histoire de l'immigration. Essayiste, il signe Histoire Chicago, La condition noire, un essai sur ces minorités en France, où les Noirs américains en marche pour l'égalité. Ce sont également eux qu'on retrouve au cœur de son nouveau livre, Les Noirs américains, de l'esclavage à Black Lives Matter, aux éditions Talendier. Ou comment ils ont évolué au fil des luttes, des injustices et des espoirs. Donc bonjour à tous et merci d'être avec nous. Louis-Philippe, vous dites souvent que l'écriture est votre maison. Pourquoi ?
Oui, je pensais que vous alliez commencer par normalement ma compatriote camerounaise.
Ça viendra.
Non, donc c'est l'égalité qui fait qu'on commence par les hommes. Maintenant, on commence plus par les femmes. Donc on est d'accord. L'écriture, oui, plus que l'écriture, je dirais le temps. En fait, j'ai développé une idée dans mon premier roman que vous avez cité là, qui était l'idée de ce que j'appelle le pays-temps. Pour moi, l'être humain, en fait, plus qu'un espace, habite toute une série d'auberges, j'ai envie de dire, dans le temps. L'enfance, pour moi, un de ces pays-là, peu importe l'endroit où ça s'est déroulé, en fait, cette enfance-là. Pour moi, c'est le cas, ça s'est déroulé dans les Caraïbes, en Haïti, bien entendu. Mais en même temps, quand je revisite cet espace-là, je me rends compte que, d'une part, je suis souvent exilé justement dans le temps, parce que je ne peux plus revenir à ce temps-là. Mais en même temps, je me rends compte que c'est un pays dans lequel j'ai vécu tout seul. Parce que souvent, quand je confronte quelques souvenirs avec mes sœurs et frères, il y en a toujours un ou une pour me dire « Oui, mais là, tu inventes, ça ne s'est pas passé comme ça », et ainsi de suite. Donc, après, au bout de quelques temps, j'en ai marre, je leur dis « Bon, pour moi, ça s'est passé comme ça. Si vous voulez que ça se passe autrement, écrivez vos propres livres, et puis on n'en parle plus. » Donc, en fait, pour moi, c'est ça l'idée. L'idée qu'on habite le temps et pas l'espace. Mais ça ne signifie pas pour autant que je ne prenne pas en compte les contingences, en fait, si vous voulez, de l'espace, tout ce que cela implique. J'appartiens quand même, je viens de quelque part, je viens d'un lieu avec une histoire donnée, une histoire avec un grand H, et que j'assume pleinement. Mais en même temps, je m'inscris dans quelque chose de beaucoup plus universel, j'ai envie de dire. Voilà.
Vous parliez des femmes et justement une histoire aussi qui vous a été transmise par les femmes.
Oui, j'ai eu cette chance-là d'être né sans père. Il est mort, j'avais quelques mois, donc du coup j'ai grandi entouré de femmes et ça c'est un privilège. En plus j'étais le petit dernier, le petit chouchou d'une certaine façon, donc forcément, et ça laisse des traces. Est-ce que ça fait de moi un homme capricieux? Je ne sais pas, mais en tout cas un homme à qui on a transmis un certain nombre de valeurs, et notamment si on reste dans les combats d'aujourd'hui et qui ne datent pas d'aujourd'hui comme tous les combats, bien entendu, et je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs qui m'ont été transmises déjà par et ces femmes qui m'ont entouré, notamment ma grand-mère qui tenait à ce que mon frère et moi, on soit indépendants. C'est-à-dire qu'on ne dépend de personne, ni d'un homme, ni d'une femme. Autrement dit, et ça se passait très mal si on ne faisait pas nos lits, ça se passait très mal si on n'avait pas appris à cuisiner. Et donc, un certain nombre de choses comme ça qu'elle nous a transmises, alors que ce n'était pas quelqu'un qui avait fait, de grandes études. Mais c'est quelqu'un quand même qui était très enraciné dans son milieu et aussi dans son histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'il savait d'où l'on venait. C'est-à-dire on venait d'une histoire, je reviens encore à l'histoire avec un grand H, on venait d'une histoire qui est celle du premier pays à avoir aboli l'esclavage sur son sol, et donc le premier pays américain qui a aboli l'esclavage sur son sol, le premier pays et le deuxième pays indépendant après, les États-Unis d'Amérique, mais surtout un pays qui a voulu transmettre cette passion de la liberté à d'autres pays. C'est-à-dire que une fois qu'on est né dans ce pays-là, on sait que les premiers ou les pères fondateurs d'Haïti ont toujours voulu transmettre cette révolution. C'est-à-dire qu'on a intervenu aux États-Unis, les Haïtiens sont intervenus aux États-Unis, ont aidé Simon Bolivar et tant d'autres à faire une grande partie de l'indépendance et de l'Amérique latine. Les Cubains, José Martí et tout ça sont partis du sol haïtien. Donc c'est quelque chose qui marque au niveau de l'identité. Et ça, c'est quelque chose, même quand on n'a pas fait de grandes études comme c'était le cas pour ma grand-mère, mais ça reste enraciné, ça participe de l'identité même de l'haïtien.
L'identité, on va en parler évidemment tous ensemble. Vous, Oswald, vous êtes donc né au Cameroun où vous avez grandi. J'imagine que vous aussi, vous êtes profondément ancré dans cette culture, que vous avez été bercé par les histoires de votre enfance. Comment est-ce qu'elles vous ont nourri ou influencé?
Toute petite, assez rapidement, j'avais 6-7 ans, ma mère m'avait dit, tu lis des livres, c'est des livres d'enfants, mais je veux que tu me les résumes. Je pense que ça a été la première fois que j'ai pris conscience du fait qu'une histoire qu'on vous racontait ou une histoire que vous découvriez pouvait ensuite être à nouveau remâchée et puis partagée avec d'autres. Il y a eu ma mère, mais il y a eu aussi ma grand-mère. Pendant les grandes vacances, on se retrouvait, c'est une image d'Épinal, mais elle est vraie pourtant. On se retrouvait autour du feu, un feu de bois, à faire griller du maïs, des safous, et ma grand-mère nous racontait des histoires. On était une bande de cousins, une dizaine. Je crois que c'est de là qu'est né mon désir, que mon désir s'est ancré de raconter plus tard des histoires, et puis surtout d'avoir un imaginaire qui voyage, qui se débride, hein, parce que c'était en Afrique, dans un village, un tout petit village, où il n'y avait absolument rien à faire d'autre que de se raconter des histoires. Et à travers ces récits qui étaient partagés, j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait complètement s'évader, découvrir le monde. Et évidemment, beaucoup plus tard, quand je suis devenue adulte, j'ai d'abord commencé par le documentaire, à raconter la réalité, ce qui me touchait au Cameroun, ou ce qui me dérangeait, notamment ce qui me dérangeait. le désir de fiction romanesque, même s'il était entré en moi, ancré en moi, il s'est développé beaucoup plus tard quand je me suis rendu compte que le réel tel que je le voyais, tel que je le racontais avec les caméras, avec la photographie, ne me suffisait plus.
Vous écrivez dans votre livre « De nos jours, un artiste qui n'a qu'une seule forme d'expression est monolingue, c'est un mort-né. Ce qui se fait désormais, c'est le transversal, le multiple. Pourquoi est-ce que votre écriture est devenue plurielle à travers, elle a pris plusieurs formes ?»
Je pense que mon imagination a toujours été bousculée à la fois par une réalité qui pouvait me heurter, je vivais au Cameroun, mais aussi par tout ce qu'on ne parvenait pas, qu'on ne réussissait pas à construire, en fait, qu'on ne réussissait pas à raconter. Et quand j'ai commencé le documentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement une infime partie des gens que ça intéressait, parce qu'il faut quand même dire, j'entends souvent, et on me le dit encore, c'est quand même très chiant les documentaires. Et avec la photo et plus tard l'écriture, j'ai pu dire le monde tel que j'avais envie de le dire, mais en utilisant le moyen d'expression le plus adapté au sujet que je voulais aborder. Dans le roman, Samy, il est à la fois artiste sculpteur, il est un peu peintre, il est un peu photographe. C'est vrai que c'est une espèce de miroir de ce que je suis. Très jeune, je m'entendais dire, tu fais trop de choses différentes, tu ne vas pas y arriver. Et j'ai essayé pourtant de ne faire qu'une seule chose. J'ai essayé d'être une monolingue artistique. Et malheureusement, j'ai échoué parce que je pense que je suis faite comme ça et que je considère que, au fond, les moyens d'expression peuvent différer, mais le regard qu'on porte sur le monde est le même. La littérature a ceci de particulier, qu'elle m'a offert l'occasion de rentrer plus en profondeur dans les personnages, dans les situations que je veux décrire, d'explorer des subjectivités que je n'aurais pas eu l'opportunité d'explorer avec les autres expressions artistiques.
Pape, dans votre cas, comme dans celui de Louis-Philippe, il y a également une femme importante dans votre enfance. C'est votre mère qui vous a élevé. Elle était, ou peut-être qu'elle est encore toujours, enseignante. Est-ce que c'est elle qui vous a transmis l'amour des mots ?
Oui, sans doute, c'est elle qui nous a sensibilisés, nous a fait lire, ma sœur et moi. Il se trouve que j'ai une sœur qui est romancière qui a fait de la langue française un élément absolument central, même si moi, je vais du côté de l'histoire, mais je prête très attention à l'écriture, sans doute moins, bien entendu, les enjeux ne sont pas les mêmes que dans la fiction, mais pour l'historien que je suis, écrire, c'est un enjeu décisif. La manière dont on écrit est absolument décisif, les mots que l'on choisit. La grande différence, je dirais, je me souviens d'une conversation que j'ai eue à ce sujet avec ma sœur, justement.
Marine Diaye.
Oui, alors elle, de son côté, elle mettait en valeur dans cet échange que j'avais avec elle, elle faisait un éloge de l'ambiguïté et de la possibilité, justement, pour le romancier, de laisser les choses pas entièrement définies. C'est aussi la magie du roman que de laisser en suspens des questions. Un romancier n'a pas à répondre à des questions de la même manière qu'un historien peut le faire, bien entendu. Tandis que de mon côté, bien sûr, mon souci, c'est d'être aussi précis que possible et d'évacuer, non pas d'évacuer complètement, mais en tout cas de laisser quand même assez peu de place à l'ambiguïté. Il faut aussi du suspens, il faut aussi pouvoir dire en histoire « je ne sais pas ». Il faut pouvoir dire, là, les archives manquent pour pouvoir dire. Mais enfin, l'objectif est quand même d'arriver à quelque chose d'assez stabilisé. Et donc ça, c'est une grande différence. Mais dans les deux cas, l'attention à la langue était extrême. Et je suppose que cela vient en bonne partie de l'enfance.
Mm-hmm. Alors, dans le livre, vous faites notamment référence à Nat Turner, qui n'a pas eu votre chance, puisque c'était un esclave rebelle, qui a appris à lire et à écrire par ses propres moyens. Pourquoi est-ce que l'alphabétisation était interdite aux esclaves ? Pourquoi est-ce qu'elle pouvait constituer un danger, voire une arme ?
Dans les sociétés esclavagistes en général, aux États-Unis, mais aussi dans la Caraïbe et en Amérique latine, pour situer les grands espaces de l'esclavage moderne, les esclaves n'ont pas accès à l'écriture et à la lecture. Pourquoi ? Parce que pouvoir lire, pouvoir écrire, c'est la possibilité de fomenter, c'est la possibilité de communiquer au loin avec d'autres, et donc c'est politiquement dangereux, et on veillait à ce que les esclaves ne puissent pas donc écrire et lire, mais bien entendu un certain nombre d'entre eux apprenaient par leurs propres moyens à lire et à écrire de façon clandestine. Il y a beaucoup de témoignages d'ailleurs d'enfants esclaves qui apprennent à lire et à écrire avec les enfants des maîtres. On joue au maître et à l'école. Hein, voilà. Et puis et les enfants apprenaient à écrire comme ça et à lire comme ça, donc de manière subreptice, mais la préoccupation des esclaves, c'était que le maître ne sache pas qu'il savait lire et écrire, parce que cela pouvait entraîner pour eux par exemple une vente automatique, donc une séparation d'avec leur famille, ou diverses formes de punition. Donc la question est bien une question absolument décisive. Nat Turner, lui, a appris à lire et à écrire, et les petits mots qu'il écrit pour les faire passer d'une plantation à l'autre lui permettent de préparer la révolte, la fameuse révolte, la plus grande révolte d'esclaves aux États-Unis, qui survient en 1831.
Louis-Philippe, à travers vos romans, pourquoi est-ce que vous travaillez la question de la mémoire afin de réécrire l'histoire, la grande histoire avec un grand H, et puis la petite histoire, et notamment, surtout, à travers ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas de visage ?
Merci pour la question. Pour moi, c'est fondamental parce que l'histoire avec un grand H, justement, je crois, participe de l'identité de tous les peuples, hein, pratiquement. C'est-à-dire que, et de la même manière qu'un Haïtien va se définir à partir de la raclée qu'on a foutue à l'armée de Napoléon, et je pense que les Français aussi parlent d'eux-mêmes à partir de la Révolution française, qui est un marqueur et fondamental dans l'histoire, dans l'identité du peuple français. Et j'ai écouté Pape avec attention tout à l'heure quand il parlait de la manière dont l'historien ou le romancier pouvait aborder l'histoire, justement. C'est la grande différence entre un romancier ou une romancière et un historien. C'est que l'historien a un devoir, j'ai envie de dire, entre guillemets, de vérité. Donc, il a parlé de failles. Mais nous, quand il y a des failles, on va combler ces failles-là directement. C'est-à-dire, on invente. Et un exemple simple que j'ai pris dans mon roman publié il y a 4 ans qui s'appelle « Avant que les ombres s'effacent », donc qui était la manière dont Haïti avait proposé d'accueillir un certain nombre, disons 50 000 juifs à l'époque sur son sol pendant la Seconde Guerre mondiale, et après Haïti avait pris un décret-loi in absentia qui proposait de donner la citoyenneté à tous les juifs qui voulaient fuir. Donc à un moment donné, pour prendre un cas précis, concret, j'ai un personnage qui était une personne au début, c'est-à-dire un Haïtien qui a été à Buchenwald. Mais sauf que cet Haïtien a été à Buchenwald en 1944. Donc moi, j'ai une histoire, j'ai envie de le faire rencontrer un autre personnage qui, lui, va pouvoir fuir. À l'époque, on pouvait encore fuir de Buchenwald en 1939. Donc j'ai ce personnage-là en 1939 et j'ai besoin qu'il rencontre l'Haïtien. Sauf que historiquement, cet Haïtien a été en 1944, lui, il a été en 1939. Donc je n'ai fait ni une ni deux, j'ai pris l'Haïtien de 1944, je l'ai emmené en 1939 à Buchenwald. Ce qu'un historien n'aurait pas pu faire, justement, mais moi j'en avais besoin pour pour mon histoire, en fait. Donc pour en revenir à votre question, l'histoire avec un grand H participe de l'identité et dit un peu ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de marqueurs, d'étapes comme ça qui définissent petit à petit, qui finissent par tisser une certaine identité. Et, par exemple, pour nous, Haïti, on va avoir on va être occupé par les États-Unis pendant 19 ans, entre 1915 et 1934. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va marquer aussi, tout comme l'occupation et, comment dire, de la France par l'Allemagne, va marquer l'identité des Français. Et les Français vont revenir en permanence sur cette occupation-là. Donc, nous, forcément, quand j'écris une histoire, une petite histoire, donc un roman, donc tous ces éléments-là, je m'en sers à un moment donné. Mais maintenant, pourquoi je l'écris souvent du côté des sans-voix? C'est simplement, j'ai envie de dire, on ne se change pas soi-même. C'est-à-dire, je suis d'une génération et qui est la génération influencée par un certain nombre de poètes comme le Martiniquais Aimé Césaire et comme, pardon, des écrivains haïtiens qui étaient exilés sous la dictature. On a eu une dictature pendant près de 30 ans, là aussi, qui a été un marqueur pour nous dans l'histoire. Donc, et forcément, quand j'entends Césaire dire « je suis la voix des sans-voix », forcément, c'est quelque chose qui est resté pour ma génération. Et j'ai tendance à parler, souvent, à donner la voix à ces gens-là. Mais ça ne signifie pas pour autant que ce soit, comment dire, que je sois dans quelque chose de clivant ou de cloisonnant. Mais j'ai tendance naturellement à aller vers les sans-voix, en fait.
Oswald, vous estimez que la littérature et l'art ont quelque chose de dérangeant, qu'ils peuvent nous secouer. Là aussi, pourquoi c'est important pour vous de nous raconter le monde et raconter le monde à travers ceux que l'histoire néglige, que ce soit dans vos documentaires ou que ce soit dans ce premier roman?
Très jeune, j'ai été confrontée à des situations d'injustice, hein. Des situations où les voix minoritaires étaient en général maltraitées. Dans le roman, il y a le personnage de Samuel, qui est le meilleur ami de l'héroïne principale, Katmé, qui est homosexuelle. Et ce personnage-là, par exemple, m'a été inspiré par des situations que j'ai vécues très jeune, où j'entendais dire de certains oncles « Ah, il aime les garçons, il n'ira pas au ciel, il ira en enfer, il ne faut plus lui parler, il ne faut plus lui adresser la parole, puisque plus tard, on ne le rencontrera pas. » Il y a effectivement aussi la situation des femmes. Dans un pays où être une vraie femme, c'est, quelle que soit la réussite sociale qu'on peut avoir, c'est être mariée, c'est être sous le joug d'un homme, être assujetti par son groupe, par sa famille. Très tôt, c'est des situations qui m'ont révoltée. J'avais une mère qui a passé sa vie à se hisser à hauteur d'elle-même. Je crois que c'est un modèle fondateur pour moi. Ça n'a pas toujours été simple parce qu'elle a fait des choix à contre-courant, des choix dérangeants. Et je sais que d'elle, j'ai retenu qu'il fallait essayer de se réinventer et essayer de se tenir à la marge, parce que finalement, la marge est définie par ceux qui pensent qu'ils sont au centre. Et moi, je dans tout mon travail, j'essaye de travailler cette marge-là afin qu'elle soit centrale. Tout au long de l'écriture du roman, à la fois sur la question des femmes, donc des minorités, et sur la question de l'identité sexuelle, je me suis bien rendu compte que c'est cette enfance-là, en fait, cette enfance-là qui s'exprimait à travers ces personnages exclus. Et j'aime dire que je m'intéresse au train qui n'arrive pas à l'heure. Quand on vient d'Afrique comme moi, où il n'est pas toujours évident d'avoir un discours positif, de voir que sur son pays, sur son continent, il y a un discours positif qui est partagé à travers le monde, c'est encore plus compliqué d'être une voix dissonante, parce que on est accusé de contribuer à renforcer les préjugés, les stéréotypes. Donc c'est une position qui n'est pas simple à tenir. Et en même temps, je n'imagine pas autrement ce que je considère comme mon engagement artistique, comme étant d'être celui des voix minoritaires, des voix dissonantes.
Pape, en tant qu'historien et directeur du musée de l'histoire de l'immigration, comment est-ce que vous souhaitez intégrer la petite à la grande histoire et nous montrer à quel point les minorités font aussi pleinement partie des richesses et de la complexité de nos pays?
C'est effectivement la grande tâche du musée national d'histoire de l'immigration, que d'arriver à intégrer les questions relatives à l'histoire de l'immigration dans notre histoire, dans notre récit national, tant celui-ci marginalise la question migratoire, à l'inverse de pays où, par exemple, les États-Unis, il est clair que le récit national central américain accorde une place énorme à l'immigration, la valorise. Ça n'est pas le cas en France. Et je suis frappé de voir à quel point il peut y avoir une sorte de dissociation entre l'histoire officielle, en quelque sorte, celle qui est enseignée aussi largement, et puis les histoires, les récits familiaux, les récits migratoires, ce qu'on entend à la maison, ce que les parents et les grands-parents racontent de là où ils sont venus, de toutes ces histoires. Pour vous donner un exemple, j'entendais Faïza Ghen, une romancière franco-algérienne, qui racontait que il y a quelques semaines, il y a quelques années, son père, elle interrogeait ses parents sur les événements du 17 octobre 1961, lorsque plusieurs centaines, vraisemblablement, d'Algériens ont été tués à Paris et jetés dans la Seine pour un grand nombre d'entre eux. Et donc, elle interrogeait ses parents il y a seulement quelques années là-dessus. Et son père, qui était dans un coin du salon et qui ne disait rien, à un moment s'est levé et puis lui a montré son crâne. Et il a un crâne déformé, elle le savait, mais il lui a dit que cela venait du 17 octobre parce qu'il avait reçu des coups de matraque sur le crâne. Et donc, elle n'a appris que très récemment que son père avait participé à la manifestation du 17 octobre. C'est dire à quel point, si ce genre d'histoire-là était tu dans les familles, et si il est important pour un musée comme celui que je dirige, eh bien de reconnecter toutes ces histoires, de montrer que l'histoire de France, elle est faite de ces mille et un récits tissés de gens qui viennent parfois de très loin, de gens qui ont subi des épreuves parfois extraordinairement dures, des persécutions, et donc de laisser la place à tout ça. Pour vous donner un exemple aussi, eh bien, nous ouvrons actuellement une exposition qui attire beaucoup l'attention. Elle a ouvert il y a 2 jours seulement sur Picasso l'étranger. Eh bien, elle fait la une de Libération d'ailleurs aujourd'hui, je le signale au passage. Dans cette exposition, on voit à quel point Picasso, d'abord, n'a jamais eu la nationalité française, on la lui a refusée. La police a accumulé un dossier sur lui dès son arrivée à Paris en 1900, parce qu'il avait un marchand anarchiste, parce qu'il habitait à Montmartre, parce qu'il avait changé de domicile sans prévenir le commissariat d'à côté, etc. Enfin, tout ça s'est accumulé. Il n'en a jamais parlé directement, Picasso, mais il a eu beaucoup de difficultés en France. Et donc, cette exposition, elle révèle, en quelque sorte, une facette de l'histoire via Picasso, de l'histoire d'un immigrant, finalement, ce qu'il était, une histoire assez ordinaire, puisqu'il était soumis aux lois qui existaient, notamment à la loi de 1889 ou à celle de 1931, et en même temps un homme célèbre aussi, à qui on refuse la nationalité. Donc c'est faire émerger ces histoires qui sont inconnues, y compris de gens célèbres, et ça, je trouve ça absolument passionnant, et je pense aussi que ça a que ça parle et que ça a à voir aussi avec ce que les romanciers peuvent faire. Parler de Picasso et de ses ennuis avec la police, c'est un merveilleux sujet pour un romancier. Et puis, il y a tellement de trous dans cette histoire, il y a quand même des choses qu'on ne sait pas. Et seule une romancière ou un romancier pourrait les combler, en quelque sorte. Mais on a conçu cette exposition. Décidément, je fais de la publicité pour mon musée. Hein. Passez-y, c'est jusqu'au 13 février, comme un récit, en utilisant d'ailleurs des techniques qui sont des techniques de romanciers. Les romanciers savent raconter une histoire merveilleusement. C'est pour ça que c'est toujours passionnant, évidemment, pour l'historien que je suis, de lire les romans comme ceux d'Oswald ou ceux de Louis-Philippe.
Vos trois histoires, justement, elles sont ancrées aussi dans l'immigration. Elles font pleinement partie de vos vies personnelles et familiales. Dans votre cas, Louis-Philippe, en quoi est-ce que vous diriez qu'elle vous a façonné en tant qu'haïtien errant, j'ai envie de dire, aux multiples cultures et qui a vécu dans de nombreux pays?
Pour moi, c'est très simple. En tant que Caribéen, notre histoire, c'est une histoire de migration, de toute façon. C'est-à-dire les peuples autochtones ont été décimés très, très tôt, très vite. Bon, il y a quelques traces dans l'île de la Dominique, par exemple, ou dans d'autres, mais les autochtones ont été décimés. Il y a encore, bien entendu, des traces de métissage, même biologique. Il y a aussi, bien entendu, dans toute la culture, un certain nombre de choses au niveau gastronomique, au niveau culturel, dont on a hérité. C'est évident que c'est là. Mais la grande majorité des gens qui peuplent la Caraïbe aujourd'hui, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Des gens qui sont venus sur le même bateau, bien entendu, sauf qu'il y a une grande majorité qui était dans la cale du bateau et une autre partie qui était sur le pont du bateau. Donc, c'est-à-dire que là aussi, la migration... Et c'est quelque chose qui participe de notre identité en tant que peuple. C'est-à-dire que on ne peut pas. Tout le monde est venu d'ailleurs. Et même on a un rapport au sol, surtout en Haïti, qui est assez particulier et qui explique peut-être en partie, je m'aventure un peu, les désarrois, tout le désarroi aujourd'hui du peuple haïtien. On a un rapport au sol comme si on était de passage dans ce pays-là. C'est-à-dire que comme si on n'allait pas rester vraiment, parce qu'on est venu d'ailleurs, on est d'ailleurs, qu'on soit venu du pont ou de la cale du bateau. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis on a aussi, justement à cause des problèmes économiques, beaucoup de gens qui partent à l'étranger. Ce n'est pas par hasard que mon roman se déroule à Milwaukee, qui s'appelle Milwaukee Blues, outre le fait que j'ai enseigné à l'université Wisconsin-Milwaukee. Mais comme tous les Haïtiens, j'ai de la famille et tous mes copains de lycée pratiquement se trouvent aux États-Unis. Donc, on a tous de la famille aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est un pays qui n'a même pas fini un peuple plutôt qui n'a même pas fini de s'enraciner quelque part et qui était obligé encore de repartir. Donc, je parle des grandes communautés qu'on peut avoir aux États-Unis et au Canada, mais sans oublier de l'autre côté de la frontière avec la République dominicaine, où il y a énormément d'Haïtiens aussi. Je parle de centaines de milliers pour un petit pays comme la République dominicaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous définit, c'est-à-dire qu'on n'y peut rien. Et par la suite... moi-même, il se trouve que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup vécu à l'étranger, notamment en Italie, où j'ai pu inscrire une histoire qui s'appelle « Balade d'un amour inachevé », bien sûr aux États-Unis, ou pour des séjours plus courts, on va dire d'un an ou de quelques mois dans des pays comme l'Allemagne ou l'Israël ou Israël ou d'autres. Mais c'est vraiment quelque chose qui est là, qui fait que souvent... Quand j'écris un roman, et ceci dès mon premier roman, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, j'ai du mal à garder les personnages dans un seul endroit. Ce n'est pas possible. J'essaye parfois, je dis, tiens, il faut qu'il s'enracine et il faut qu'il reste là. Par exemple, dans Milwaukee Blues, effectivement, une grande partie de l'histoire se déroule à Milwaukee, mais je n'ai pu m'empêcher de faire du personnage quelqu'un qui erre aux États-Unis, qui est... Comme vous le savez tous, c'est tout un très, très grand pays où il y a même des décalages horaires. Donc, forcément, le personnage va partir du nord au sud, de l'est à l'ouest des États-Unis. Et c'est quelque chose qui est là. Je suis incapable d'inscrire un personnage, j'ai envie de dire, dans la sédentarité. Il faut que le personnage bouge. C'est comme ça, quoi.
Pape Louis-Philippe venait de parler du métissage. C'est quelque chose qu'on retrouve chez vous, puisque vous êtes le fruit d'une mère française et d'un père sénégalais. Néanmoins, vous dites que c'est aux États-Unis que vous avez découvert que vous étiez noir sur le tard, pour reprendre vos propos. En quoi est-ce que ça a changé votre regard?
Oui, j'ai vécu aux États-Unis pendant 7 ans à peu près. Et je m'y rends régulièrement, un peu moins en ce moment, à l'évidence. Et une des grandes différences, il y en a beaucoup évidemment, mais entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, les questions ethno-raciales sont explicitées. Elles ne sont pas recouvertes par un discours républicain universaliste officiellement aveugle à la couleur de peau. Et donc, mon expérience d'étudiant, quand j'y suis arrivé pour commencer mon travail de thèse, ça a été une surprise, d'ailleurs un choc presque initial, de remarquer que dans l'université où j'étais, il y avait une association d'étudiants noirs, par exemple. Ce qui, en France, à l'époque, était absolument inconcevable. Et puis, j'ai réalisé, évidemment, depuis, en travaillant ces questions, que depuis un siècle, en France, on réfléchit, évidemment, sur la signification, sur ce que signifie qu'être noir dans la société française, qu'elle soit impériale ou autre. Je rappelle au passage le puissant mouvement de la négritude, par exemple, qui est une réflexion évidemment absolument essentielle, et l'importance d'un Césaire en particulier dans tout cela. Et donc il ne faut pas durcir à l'extrême le contraste entre la France et les États-Unis. Il y a une longue histoire en France de réflexion sur ces questions, mais elle n'est pas structurée de la même manière. Et donc moi, aux États-Unis, j'ai au fond, bien que je faisais de l'histoire des sciences à cette époque, mais enfin j'ai commencé à réfléchir de façon plus intense sur, on va dire, mon identité en quelque sorte, et à m'assumer plus clairement et plus fortement, sans prétention et sans arrogance particulière, mais sans honte non plus, à dire oui, moi je suis noir, et j'ai pas honte de le dire, et je suis français, et je suis un français noir, et ça veut dire quelque chose pour moi, je l'assume, j'en fais quelque chose, j'essaie de m'appuyer là-dessus pour penser les questions de racisme et de discrimination, pas celles qui m'affectent directement, d'ailleurs ce n'est pas le cas de façon intense, mais par solidarité aussi avec toutes celles et ceux qui peuvent souffrir, ou en tout cas qui font des expériences, qui subissent des expériences discriminatoires dans leur vie quotidienne. Donc c'est aussi par solidarité, en quelque sorte, que je me suis affirmé comme tel.
Ces questions discriminatoires, elles sont au cœur de votre roman, Oswald. Vous dites d'ailleurs que c'est injuste d'être né d'une certaine manière et de se retrouver discriminé. Est-ce que ce sont finalement les autres qui nous collent une identité, que ce soit dans le cas de vos personnages, que ce soit une identité de femme ou une identité d'homosexuel ?
Oui, tout à fait. C'est La question de l'altérité est centrale dans mon travail, hein, parce que je me suis rendu compte quand j'étais, par exemple, au Cameroun, tout le monde est noir et je me vivais uniquement comme minoritaire parce que j'étais enfant d'abord et puis ensuite femme. La question de la couleur et de l'altérité double, si je puis m'exprimer ainsi, être femme et noire, s'est posé pour moi quand j'ai quitté l'Afrique, quand j'ai quitté le Cameroun. C'est là que je me suis dit, dans le regard de l'autre, effectivement, je suis complètement différent, et cette différence emporte avec elle une série de préjugés, une série d'assignations, avant même que je n'aie ouvert la bouche, avant même qu'on ne soit rentré dans un échange quelconque. Quand je suis arrivée à l'étranger, j'ai pu poser un regard distancié sur la société camerounaise, la société africaine, d'Afrique subsaharienne, et là j'ai réalisé à quel point les conséquences de l'esclavage, de la colonisation, à quel point elle avait irrigué nos sociétés, et dans quelle mesure l'aliénation culturelle de tout un pays était vraiment dans l'ordinaire des choses. Je prends un exemple. Au Cameroun, par exemple, l'un des compliments ultimes qu'on peut faire à quelqu'un, et j'ai grandi en disant moi aussi cela, c'est toi tu es un vrai blanc et tu es une vraie blanche. Dire de quelqu'un qu'il est un vrai blanc, c'est dire qu'il est raffiné, qu'il est cultivé, qu'il possède plein de qualités et que c'est un modèle à imiter. Dans les aquatiques, le personnage central s'appelle Katmé. Et Katmé, c'est une espèce de clé Son prénom, c'est une clé. Katmé, c'est le verlan de Mekat. Mekat, qui est l'équivalent de Muzungu au Congo ou de Toubab au Sénégal. Et c'est un nom qu'on donnait à ma mère. On l'appelait Mekat, en fait. On l'appelait la Blanche. Et aujourd'hui, quand je regarde ça ou quand j'ai commencé à écrire le roman, toutes ces scènes-là que j'avais intériorisées et qui me semblaient normales de dire à quelqu'un « mais toi, tu es un vrai blanc et tu es une vraie blanche » me sont revenues et j'ai réalisé en creux ce que cela signifiait. Cela signifiait comme des aveux de ce que la personne est par nature, à quel point ça disqualifiait ce que la personne a reçu comme culture familiale, culture ethnique, et à quel point, aujourd'hui encore, l'altérité occidentale est considérée comme la pierre de touche de l'excellence. Donc, voilà quoi. Donc, tout mon travail aussi est irrigué par cela, parce que j'ai intériorisé beaucoup de schémas qui m'ont été inculqués, qui sont des schémas sociétaux complètement admis et ordinaires. Dans le roman aussi, il y a ce groupe-là, ce groupe de femmes expatriées occidentales, qui pose un regard très condescendant sur la société dans laquelle elles vivent, sur les populations locales, mais elles n'en sont pas conscientes. Quand il faut choisir entre une activité à caractère culturel, découvrir un musée, un espace géographique qui a une histoire ancienne, et aller visiter des orphelins ou une prison, quasi systématiquement, elles choisissent ce que l'un des personnages appelle l'escapade de la misère. Et ça permet, une fois de plus, de maintenir l'altérité dans une forme de domination, en fait.
Louis-Philippe, vous écrivez que le lieu où on est, où on habite, est déterminant, la classe sociale, la couleur de peau également, comme vous nous le rappelez à travers ce personnage de George Floyd qui vous a inspiré votre nouveau roman et que vous appelez Emmett dans le livre. En quoi est-ce que lui, ça va vraiment profondément déterminer sa vie et ça va aussi le casser à plusieurs reprises?
Oui, je voudrais dire une chose, c'est que à partir du moment où quelque chose est dit dans la presse, tout le monde reprend à peu près la même chose. C'est-à-dire que le personnage n'a pas été inspiré par George Floyd, en fait. Et le personnage, l'histoire, c'est une histoire qui m'habite depuis très longtemps. Et depuis tout ce rapport dont je parlais avec les États-Unis, il fallait que je trouve un lien, une porte d'entrée. Et pour ce personnage-là, déjà en 2014, il y avait eu la même histoire par Eric Garner à New York, qui avait été victime de la même chose. Donc j'y pensais déjà, et à ce moment-là, comment dire, d'écrire ce roman. Mais la grande différence que je peux avoir avec cette façon d'aborder l'histoire une histoire que je raconte, c'est que je me place souvent du côté de la classe plus que de la race, sans être ce que aux États-Unis on appelle le colorblind, c'est-à-dire que je suis conscient de ce fait-là, justement, et je ne peux pas le nier, surtout quand je vis dans un pays comme la France ou aux États-Unis ou dans d'autres pays où, justement, mon altérité saute aux yeux de la majorité. Je suis parti d'Haïti, j'avais 23 ans. C'est-à-dire que je suis parti, j'étais un homme avec une conscience déjà politique très aiguë. Et puis, il y a une chose que j'ai apprise il y a quelque temps. Il y a un président en France qui voulait écrire, ça s'est passé, un décret-loi sur les aspects positifs de la colonisation. Et je pense que, donc Haïti a été colonisé par la France, il y a une chose qu'on a apprise comme aspect positif, c'était que les Haïtiens sont très chauvins. Donc ça, on a bien appris la leçon. Donc on se croit toujours le centre du monde, on se croit, que tout est parti de nous, et on a fait quelque chose.
Et c'est vrai, en plus.
Et on a réussi à faire quelque chose, par exemple, au niveau de la langue. J'ai entendu ma collègue parler tout à l'heure, en créole haïtien, le mot nègre signifie homme, quelle que soit sa couleur de peau. Hein, si je dis je vais en Afrique, un Haïtien me dira vous allez au pays des blancs, c'est-à-dire des étrangers. Et donc le blanc c'est l'étranger, le nègre c'est l'homme, l'être humain, quel qu'il soit. Donc c'est quelque chose que très très vite qu'on a appris. Et quand on arrive, le danger qu'il peut y avoir quand on vient dans un pays où on est minoritaire, c'est justement d'accepter de se définir à travers le regard de l'autre. Que le regard que l'autre pose sur nous, on s'approprie ce regard-là, on se dit exactement « je suis comme ça ». Donc moi, étant parti à 23 ans et étant parti avec ce bagage historique et culturel derrière moi, donc j'ai très vite mis à distance, et comment dire tout ça. Et je savais d'où ça venait. Donc, et forcément, quand je vais parler, comment dire, d'un personnage et comme Emmett, comment dire, dans mon roman, c'est déjà un personnage qui historiquement remonte à très loin, remonte à 1955, par, comment dire, l'assassinat d'un jeune homme. S'appelait Emmett Till, donc par des blancs et racistes dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi. Donc un personnage sur lequel et beaucoup, et, comment dire, d'auteurs comme Aimé Césaire, comme Nicolas Guillen, le Cubain avait écrit, ou toute la tradition des protest songs qu'on peut avoir aux États-Unis avec des gens comme Bob Dylan ou d'autres ont repris cette histoire. Et récemment, il y a une chanteuse états-unienne qui s'appelle Melody Gardot, que peut-être vous connaissez, qui a fait une chanson et justement sur cette histoire d'Emmett Till et de 1955. C'est dire combien cette thématique de la tension raciale est structurante par rapport à ce pays-là. Donc, en même temps, quand je vais parler de Emmett, moi, ma grande question pour le roman, c'est quand on est dans un ghetto et dans un pays, dans le Midwest aux États-Unis, comment, et en plus dans une famille monoparentale, comment échapper au déterminisme social qui fait que forcément on risque d'échouer, quoi. On a plus de chances que d'autres d'échouer. Donc il y a un certain nombre de tremplins comme ça aux États-Unis qui peuvent être, comment dire, la musique ou bien le sport universitaire. Lui, et ce personnage d'Emmett, a la chance d'être bon en football, ce qu'on appelle le football américain, qui est plus proche du rugby que du soccer, comme ils appellent ça. Donc, il va passer par une bourse pour pouvoir échapper à tout ça. Mais en même temps, je l'inscris aussi, au-delà de cette histoire, comment dire, d'Emmett Till, je l'inscris dans quelque chose d'autre qui remonte même à plus loin que Emmett Till. En hébreu, vous le savez, Emmett signifie « vérité ». Et quand le rabbin s'est rendu compte que le golem était en train de lui échapper à sa contrôle, il va enlever la première syllabe et il va garder « met », et en hébreu aussi, il signifie « mort ». Donc pour moi, c'était ça l'idée. C'est-à-dire que je n'ai pu raconter cette histoire que quand Emmett Till, donc de 1955, a pu rencontrer cet autre personnage qui l'inscrit, pour moi, dans une forme d'universalité et qui ne l'enferme pas, justement, dans sa couleur de peau, en fait.
Cette évolution historique, on la retrouve également dans votre livre, Pape, puisque vous le rappelez qu'en Amérique, il existe deux sociétés, l'une étant noire, l'autre étant blanche. Ils sont voisins et en même temps, pourtant, ils sont étrangers. Pourquoi et comment est-ce que ça évolue au fil du temps ?
Alors oui, je dis à propos de la ségrégation, évidemment, qui institue aux États-Unis des lois... un maquis de lois d'ailleurs d'une très grande complexité qui sépare les uns et les autres. Il y a à l'époque dans le sud des États-Unis pendant jusqu'aux années 60, il y a des ascenseurs pour noirs, des ascenseurs pour blancs, les cimetières, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, les toilettes, les écoles, évidemment les transports, et donc c'est un mur extrêmement haut et rigoureux qui a été construit, qui est en plus solidifié par, gardé en quelque sorte par la violence et les lynchages, y compris celui d'Emmett Till dans le Mississippi en 1955. Il était de Chicago, lui. À Chicago, ça n'est pas la ségrégation n'existait pas de la même manière. Il part en vacances chez sa grand-mère dans le Mississippi et puis il est lynché parce qu'il a dû regarder de travers une femme blanche, quelque chose comme ça. Donc c'est ça qui existe et les États-Unis ont vécu dans ce régime-là jusqu'au milieu des années 60. Les mariages, évidemment, dits mixtes, étaient interdits dans 30 États sur 50 jusqu'en 1967. Les choses ont évolué depuis, bien entendu. Et heureusement, les États-Unis d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux États-Unis des années 60. Et beaucoup de données le confirment. Il y a, par exemple, à Chicago, ville que je connais bien, il y a des quartiers mixtes aujourd'hui qui n'existaient pas du tout de la même manière dans les années 60. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi des pesanteurs qui font que, notamment, là, c'est la question de la classe sociale. Le monde pauvre noir américain, lui, est resté en rade, vraiment. Autant il y a une classe moyenne noire qui s'est développée depuis les années 70 grâce au programme d'Affirmative Action, par exemple, qui ont joué un grand rôle dans l'accès à l'université, aux emplois fédéraux, etc. Autant il y a un monde noir très pauvre qui, lui, a coulé par suite aussi à l'affaiblissement du monde ouvrier, à l'arrivée de la drogue massive dans les quartiers noirs américains à partir des années 70 et de la fin de la guerre du Vietnam. Donc tout ça fait que on peut parler peut-être d'un quart du monde noir qui est un monde sous l'eau, vraiment, qui ne s'en sort pas du tout. Et dans la situation est même pire que dans les années 60, quand il y avait encore les emplois ouvriers plus ou moins bien payés.
Surtout avec le Covid, on l'a vu aussi.
Et le Covid l'a montré de manière extrêmement violente. On voit à quel point la crise sanitaire a révélé aussi des inégalités sociales et raciales qui étaient préexistantes, mais qui ont été en quelque sorte exaspérées par la crise du Covid, qui a tué beaucoup plus, deux fois plus, de Noirs américains que d'Américains blancs. Donc les proportions sont absolument colossales. Elles tiennent à l'accès aux soins, mais elles tiennent aussi à l'état, à la santé générale des personnes. L'état physique des personnes préalable à la crise sanitaire a aussi joué un rôle dans leur résistance à la crise. Par exemple, la question de l'obésité, qui est une question très importante chez les pauvres aux États-Unis, est un facteur de comorbidité, comme on dit, dans la crise du Covid. Donc l'obésité a joué un rôle en multipliant en quelque sorte la vulnérabilité du monde noir américain par rapport à cette crise.
Oswald, c'est quelque chose qu'on retrouve différemment au sein de votre roman, dans ce pays imaginaire, mais très symbolique, évidemment, très métaphorique du nombre de crises que peuvent traverser aussi ce pays qui en symbolise tant d'autres. Est-ce que vous pensez néanmoins qu'il y a une forme d'évolution, de libération qui viendra notamment de la part des femmes, puisque c'est aussi quelque chose que vous nous transmettez à travers ce roman?
Oui, tout à fait. Il y a eu, notamment dans à la suite de MeToo, il y a eu des MeToo en Afrique qui ont permis la libération de la parole des femmes. Il y a une prise de conscience de plus en plus forte de la nécessité de redéfinir le rôle de la femme, la place de la femme dans les sociétés en Afrique, même si le féminisme tel qu'il est pensé en Occident ne rencontre pas une adhésion sur le continent africain qui a des réalités spécifiques et qui essaye d'imaginer, de reconfigurer le rapport homme-femme à la lumière des réalités sociales et culturelles locales. Je sais que le roman qui a commencé à être lu au Cameroun, Les Aquatiques, il y a plusieurs femmes sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs groupes d'associations qui m'ont dit oui, c'est pour nous, c'est un écho encore plus large de ce qu'on pense, de ce qu'on partage dans nos groupes de parole. Indéniablement, il y a une vague qui s'est levée, une espèce de houle qui est en train de changer les choses. Oui.
Louis-Philippe, dans votre livre, vous citez James Baldwin qui dit « On ne change pas tout ce qu'on combat, mais rien ne peut être changé tant que l'on n'y fait pas face ». C'est aussi ce que vous nous montrez dans ce roman et qui a été également montré par la réalité, puisque on voit il y a des révoltes qui sont en train de se faire. L'événement George Floyd qui a été filmé, montré sur les réseaux sociaux et les médias du monde entier a soulevé une révolte dans le monde entier, notamment de la part des jeunes et pas que des noirs, justement des blancs et des noirs. Est-ce que vous pensez que quelque chose est en marche?
Je crois que ça a toujours été en marche, c'est-à-dire que les gens qui sont victimes ou qui souffrent de quelque chose quelque part n'attendent pas qu'il y ait un événement pour se mettre en marche, c'est-à-dire que ça ne se voit pas le combat et qui livre ce combat souvent souterrain. Et puis, bon, il y a quelque chose qui fait que c'est venu à la lumière. C'est comme, ça me rappelle toujours, quand on dit le continent américain, quand les Européens disent qu'ils ont découvert l'Amérique, mais l'Amérique existait avant que les Européens y arrivent. Donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ces gens-là qui souffrent, qui se battent, que ce soit les femmes ou que ce soit les minorités dans certaines sociétés, n'attendent pas qu'il y ait, comment dire, ou hashtag MeToo, ou bien Black Lives Matter, ou c'est pas d'autre. C'est quelque chose qui est là, qui se met en place. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que ces choses-là viennent un petit peu apporter d'autres formes, si vous voulez, de lutte ou de manifestation. On l'a vu, par exemple, avec le printemps arabe dans les pays, comment dire, maghrébins, comme en Tunisie, où ça, ce que les réseaux sociaux a pu faire, et c'est ce que je reprends, par exemple, dans le roman, en mettant face à face trois générations, en fait, de gens. Il y a la génération de Mav Robinson, qui est une ancienne gardienne de prison qui devient pasteur, comme ça peut arriver aux États-Unis, elle devient révérende. Mais elle, c'est une femme qui a plus de 75 ans, qui a connu les manifestations des années 60, 70, donc encore, on va placarder des affiches, les bouches à oreilles. Puis il y a la génération de Stokely, par exemple, et d'Emmett, qui a autour de 45 ans. Et puis, il y a une troisième génération qui est celle de la petite haïtienne Marie-Hélène et qui vient de Chicago justement, et de Dan qui est un petit juif rasta et vegan et qui sont fiancés et qui ont une autre façon d'aborder cette lutte là. Donc il va y avoir, c'est comme un passage de témoin. Et justement, comme au moment des funérailles d'Emmett, Ma Robinson se rend compte que quelque part, je ne dis pas que sa façon de se battre est dépassée, parce que c'est elle qui impulse, c'est l'énergie qui est là. Mais grâce à Marie-Hélène et Dan, eh bien, ils ont pu faire passer le message sur tous les réseaux sociaux, Messenger, TikTok, Instagram et tout le reste. Donc ça a permis qu'il y ait plus de gens à la manifestation et des gens qui sont venus justement de tous horizons. Et elle le dit dans un accent un peu à la quand dit Martin Luther King, et où il disait qu'il y a des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des Latinos, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, et c'était vraiment quelque chose d'autre. Donc il y a un passage de témoin qui se fait, mais encore une fois, ces gens-là n'ont pas attendu qu'il y ait les réseaux sociaux pour prendre conscience qu'ils étaient dans une situation intenable pour les êtres humains.
Bien sûr, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans vos livres, puisque Pape, notamment, vous nous parlez de tous ces mouvements de lutte africaine, américaine, qui sont justement, qui essayent là aussi de faire bouger les choses. Vous le rappelez dans votre livre, Black Lives Matter, c'est avant tout un droit à la vie qui est revendiqué, et c'est aussi ce droit à la vie qu'on retrouve chez vous, Oswald, puisque c'est un roman qui nous encourage à vivre à la hauteur de nous-mêmes, tout en nous encourageant à la fraternité et la sororité. On pourrait évidemment vous écoutez encore des heures sur ces vastes sujets, mais malheureusement, il est l'heure de se quitter. En tout cas, merci beaucoup à vous trois et merci à vous pour votre attention.